Les grandes heures de la France par Octave Aubry. Chapitre 7e. Les reconstructeurs Henri IV et Richelieu. Henri IV avant la messe. Le premier roi Bourbon, Henri IV, dont le nom aura chez nous un écho si prolongé, est en somme mal connu. Son personnage est complexe. On trouve chez lui de multiples contradictions de pensée et de conduite. Mais un sentiment constant anime sa vie, inspire ses actes, l'amour du pays. Le Béarnais est un roi patriote. Bien jeune encore, il écrivait au lendemain du traité de Bergerac « Nous sommes tous Français et concitoyens d'une même patrie. Il nous faut accorder par paix et non par guerre, qui ne font que faire souffrir les hommes. » Patriotisme et humanité, là est sa nouveauté, là sa force. C'est par là qu'après des difficultés extrêmes, il finira par réunir autour de lui tous les Français. Français, il le paraît merveilleusement, plus qu'aucun roi qu'ait eu la France, et par les défauts aussi bien que par les qualités. Sensible, léger, ingrat, charmant, d'humeur gaillarde et drue, trop ami du plaisir, il pétille d'intelligence. S'il est plein d'honneur, il est aussi très réaliste, il calcule toujours son intérêt. Sa jeunesse traversée l'a rendu prudent, sceptique et politique s'il en fut. Il évolue avec la situation, s'applique à l'événement. Ses débuts sont pénibles. Il peut bien être le roi légitime, sa religion contraire à celle de l'immense majorité des Français le réduit au rang de chef de parti. Abjurer tout de suite le calvinisme serait un coup de maître. Mais Henri IV ne veut pas en telle matière se sentir le poing sous la gorge. Au reste, il imagine encore une réunion possible des deux églises. Il va donc essayer de la tolérance. Le 4 août 1589, il proclame la liberté de conscience. Il n'aboutit qu'à mécontenter les deux parties. En face de lui, la Ligue a reconnu pour roi le vieux cardinal de Bourbon et confirmé Mayenne, frère des Guises, dans ses fonctions de lieutenant-général. Philippe d'Espagne, de son côté, revendique la France pour sa fille qui tient ses droits de son aïeul Henri II. 10 000 Allemands et Suisses à sa solde sont entrés dans Paris. Des secours ont été promis aux Béarnais par l'Angleterre. Pour les recevoir, il se porte en Normandie. Mayenne le poursuit et l'attaque à Arques. Il est battu. Henri marche alors sur Paris, mais il échoue et doit se contenter de réduire les provinces de la Loire. Venise l'a reconnu et le Médicis de Florence et les puissances protestantes. Il est déjà plus fort. Mayenne voudrait l'user par une guerre sans bataille. Mais les troupes espagnoles qui l'ont rejoint réclament une victoire. Un combat acharné s'engage près de l'Eure à Ivry. Le roi, joyeux, s'est coiffé d'un casque à plumes blanches. Avant l'attaque, il galope devant ses escadrons rangés en ligne profonde. « Mes amis !» scande-t-il de sa voix gasconne, « je veux vaincre ou mourir avec vous. Si vous perdez vos enseignes, ralliez-vous à mon panache blanc, vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur. » Son artillerie jette le désordre dans l'armée de Mayenne, puis la cavalerie royale, furieusement lancée, emporte tout. Les ligueurs fuient. On entend Henri qui s'est battu en jeune homme, exposé follement, crier dans la déroute, « Sauvez les Français et main basse sur l'étranger !» Revenu devant Paris, il intercepte vivres et secours. Les Parisiens fanatisés font une défense enragée. La famine excite plus ce peuple nerveux qu'elle ne le déprime. 30 000 personnes déjà sont mortes. On a mangé les chiens, les chats, les rats, l'herbe des cours. On va jusqu'à mêler à la farine de la poudre d'ossement. Saisi de pitié, le roi laisse sortir plusieurs milliers d'habitants. Un miracle seul peut sauver Paris. Le gouverneur des Pays-Bas, Alexandre Farnèse, envoyé par Philippe II, l'accomplit. Il arrive de Flandre à marche forcée, prend Corbeil et Lannier à la barbe du roi, et ravitaille la ville où il installe une garnison de 8 000 Espagnols. Henri doit lever le siège. Il se replie en Normandie, y essuie quelques échecs. Ses affaires ne s'améliorent guère, il faudra qu'il se convertît, et il ne s'y résout pas. C'est alors que Mayenne réunit les États généraux. Il espère se faire nommer roi. le duc de Feria, ambassadeur de Philippe II, réclame le trône pour son infante qui doit épouser un archiduc. La prétention fait cabrer les Français. Le recteur Rose, pourtant fougue ligueur, répond sans embâge « Ce royaume n'admet pas de fille, encore moins une Espagnole. » Le Parlement proteste avec énergie. Le Béarnais alors sent venu l'heure où il peut tout gagner ou tout perdre. Il annonce qu'il est prêt à se faire instruire dans la religion catholique. Qu'il lui en coûte est sûr. Il navre ses meilleurs compagnons et amis. C'est à la France bien plus qu'au trône encore qu'il fait le sacrifice de sa foi. C'est pour elle, comme il l'écrit à sa belle amie Gabrielle d'Estrées, qu'il se résigne à ce saut périlleux. Le 25 juillet 1593 à Saint-Denis, après une conférence de 5 heures avec plusieurs prélats, il abjure solennellement entre les mains de l'archevêque de Bourges aux acclamations d'un peuple composé surtout de Parisiens. La reconquête de la France. Tout, dès lors, change de face. La France se tourne vers Henri. Les provinces font leur soumission, les villes se donnent. C'est à qui livrera au roi la capitale, sachant qu'il en recevra récompense. Le prévôt des marchands L'Huillier et le gouverneur Brissac ne laissent point l'affaire à d'autres. Ils traitent de la reddition pour de grosses sommes, la promesse de charge. Le roi reçoit les clés de la ville à la porte neuve et, quasi sur les épaules de la foule, va entendre un Te Deum à Notre-Dame. Il envoie Feria, qui commande la garnison d'Espagne, l'ordre de partir sur l'heure et Goguenard va le voir passer à la porte Saint-Denis. Souriant dans sa barbe précocement grise, le Béarnais fait face à tout, avec une activité, une vaillance sans défaut. L'Espagne, ne voulant désarmer, il lui déclare la guerre. Elle se fait à l'est. Montmorency chasse les Espagnols du Lyonnais, Biron occupe la Bourgogne, à Fontaine française, Henri, par une charge téméraire, enfonce les carrés du connétable de Castille. Après les succès, les revers. Cambrai, Calais, Le Havre, Amiens sont pris par un vil retour des Espagnols. Paris est menacé. Pendant 3 ans se prolonge cette lutte exténuante. L'Espagne est bien lasse et son roi est bien vieux. La mer appartient aux Anglais depuis le désastre de l'Armada. Les galions d'Amérique n'arrivent plus. La Hollande a repoussé tous les assauts et les provinces unies sont libres. Philippe II comprend qu'il a perdu la partie en France et que ses rêves de principat universel ont définitivement croulé. Il se prête à la paix. Henri IV l'accepte avec joie. La France, elle aussi, n'en peut plus. Au traité de Vervins, chacun rend ses conquêtes. Après 30 années de luttes affreuses qui ont mis la France au bord de sa fosse, cette paix de fatigue lui semble une aurore. Elle pourra respirer, lécher ses plaies, guérir. Peu avant la paix étrangère, Henri IV a rétabli par l'édit de Nantes la paix civile. Le 13 avril 1598, l'édit assure aux réformés la pleine liberté de conscience. L'exercice de leur culte est autorisé dans la plupart des villes. Ils ont accès à toutes les charges, peuvent tenir des assemblées, ouvrir des écoles. Le roi veut l'apaisement intérieur à tout prix. Il le déclare au Parlement qui se montrait opposé à l'édit. « J'ai fait la paix au dehors, je la veux au dedans. Je couperai la racine à toute faction. J'ai sauté sur des murailles de ville, je sauterai bien sur des barricades. » Henri IV et Sully. Aux époques les plus critiques, la France a presque toujours eu cette chance extrême de trouver un grand roi ou un grand ministre. Cette fois, et elle en a tant besoin, elle va trouver ensemble grand ministre et grand roi. Maximilien de Béthune, qui sera créé duc de Sully, bon capitaine, expert aux questions d'artillerie, est un homme rogue et avide qui n'oubliera pas assez sa propre fortune. Souvent en désaccord avec son prince qu'il m'origène, il se charge peu à peu du fait presque total du gouvernement. Finances, travaux publics, armées, il prend tout en main, réorganise tout. Les impôts sont refondus, la magistrature épurée, l'armée refaite. Sully n'aime point les bâtiments. Le roi lui force la main. Il transforme Paris, fait achever les Tuileries, l'hôtel de ville, travaille au Louvre, à la place Dauphine, à la place Royale, au pont on change, au pont Neuf. Il construit les châteaux de Monceau et de Saint-Germain. Pour l'agriculture, maître et serviteur se retrouvent en plein accord. La première richesse du royaume est dans la terre. Labourage et pâturage, répète Sully, sont les deux mamelles dont la France est alimentée et les vraies mines et trésors du Pérou. Partout, le travail reprend dans les campagnes, le bien-être renaît, en dépit d'une augmentation sensible du coût de la vie. L'industrie préoccupe le roi bien plus que son ministre qui craint le développement des dépenses privées et l'amollissement du luxe. Henri IV a des vues autrement larges et modernes. Aidé du calviniste Olivier de Serres, créateur de la science agricole, il introduit en France la culture du mûrier, établit des magnaneries. La soie, jusque-là toute italienne, devient une des premières productions françaises. Il fonde aussi, ou protège activement, des manufactures de verre, de glace, de tapis, de toiles de drap d'or et d'argent. Tout le pays, sous cette impulsion ensemble sage et hardi, où les idées d'avenir du prince sont pondérées par la prudence du ministre, reprend vie, santé, équilibre. En 15 années, il se répare entièrement. Œuvre admirable, qui dans le temps même n'a pas été appréciée par l'opinion, car ce prince si humain, si soucieux du mieux-être des petits, ne sera jamais populaire durant sa vie. Mais il lui vaudra plus tard de ce peuple qu'il a ranimé et rendu à lui-même le plus touchant et durable retour d'amitié. Le grand dessein. Henri IV sait trop bien que pour la monarchie française, il n'est pas de sûreté tant que les Habsbourg demeurent si forts et ambitieux. Charles Quint n'est pas mort tout à fait. Ses héritiers gardent ses vues. Aussi la pensée foncière du roi est de leur ôter tout espoir de suprématie européenne. Il pense y réussir par une entente des États menacés. Déjà l'allié de l'Angleterre, de la Hollande et des Suisses, Henri se ménage encore par des négociations secrètes l'appui du pape, du grand-duc de Toscane, de Venise, de la Savoie. L'Italie espagnole serait partagée entre eux. La Hollande prendrait le Brabant du Nord et la Flandre orientale, l'Angleterre la Flandre maritime et le Brabant du Sud. La France, elle, aurait l'Artois et le reste des Pays-Bas, le Roussillon, la Savoie, cédé par son duc en échange d'un royaume lombard. L'héritière de la Lorraine serait mariée au dauphin. Pour l'Allemagne, les couronnes électives de Bohême et de Hongrie seraient séparées des pays autrichiens que se partageraient pour la plus grande part les princes de Bavière, de Bade et de Württemberg. La dignité impériale à chaque élection passerait dans une maison différente. Pareil projet mène à la guerre. L'empereur Rodolphe la provoque en saisissant les duchés de Clèves et de Juliers que se disputaient deux princes luthériens. Henri équipe 3 armées. Il doit, avec l'une d'elles, envahir les Pays-Bas. En son absence, la reine Marie de Médicis, haute et lourde femme, dévouée à l'Espagne et tout entourée d'Italiens, exercera la régence. Pour lui assurer plus d'autorité, Henri la fait sacrer en grand appareil à Saint-Denis. Cette guerre, si redoutable pour l'Autriche, les ennemis du roi vont faire en sorte qu'elle n'éclate pas. Trop de haine l'entoure et d'intérêts impatients. Tout cela se noue en un complot qui arme le bras d'un fanatique, d'un fou, maître d'école à Angoulême, Ravaillac. Henri IV a été assiégé de pressentiments. Depuis longtemps, il respire un air d'assassinat. Sully l'a surpris un jour dans sa chambre du Louvre, assis sur une chaise basse, pensif, accablé, battant de ses doigts l'étui de ses lunettes et disant d'une voix pleine d'angoisse « Pardieu, je mourrai dans cette ville, ils me tueront !» Le 14 mai 1610, il doit aller à l'arsenal, où loge Sully, pour régler avec son ministre, souffrant, diverses affaires avant de partir pour l'armée. Il monte avec une sorte d'appréhension dans son carrosse où prennent place après lui d'Épernon, Montbazon, La Force, 4 autres seigneurs des plus familiers. Point d'autre escorte. La lourde voiture, sémantelée de cuir ouvert, chemine lentement par les voies étroites et encombrées du centre. À l'entrée de la rue de la Ferronnerie, elle doit s'arrêter pour laisser passer 2 charrettes. Henri est en train de lire une lettre que lui a remise d'Épernon. Ravaillac, qui suivait depuis le Louvre, saute sur le moyeu d'une roue et lui perce la poitrine de 2 coups de poignard, dont le second tranche l'aorte. Henri s'affaisse en gémissant. « Ce n'est rien, ce n'est rien !» Mais déjà, il agonise. Montbazon a saisi par le bras le meurtrier. « Ne le tuez pas !» crie d'Épernon. Il jette sur le roi un manteau et commande au cocher de revenir au Louvre le plus vite qu'il pourra. Quand on arrive, le roi a expiré, vidé de son sang. Marie de Médicis, entrant dans la chambre où on l'a déposé, couleur de cire, éclate en lamentation, à ce moment peut-être sincère, puis s'évanouit. Au dehors, la nouvelle court déjà parmi le peuple qui s'assemble autour du palais. Partout, les boutiques ferment. Une grande pitié, une grande tristesse, une grande peur aussi étreignent la foule. Elle n'a plus que dévotion et regret pour l'assassiner. Henri IV a eu raison de dire « On verra ce que je valais quand je n'y serai plus ». On le voit déjà, et dans peu, on le verra davantage. On mesure ses services, son dévouement au pays. On rappelle sa bonté, son courage, sa grâce riante, sa gentillesse. On l'a brocardé, critiqué vivant. Mort, jamais prince n'a été tant pleuré. « Nous sommes perdus », crient des gens de tout âge et de tout état, « puisque le meilleur des rois est mort. » Le vrai successeur, Richelieu. Retombée une fois encore aux mains de mauvais maîtres, pendant 10 ans, la France se divise et s'affaiblit. Un aventurier italien, Concini, un favori, Luynes, tour à tour, prennent le pouvoir. Les protestants rentrent en campagne. C'est à ce moment que paraît de nouveau un de ces hommes providentiels qui resserrent et raniment le pays dans ses crises les plus dangereuses. Comme est survenu Henri IV, survient Richelieu. Conseiller intime de la reine-mère Marie de Médicis, il obtient par elle, après un long et patient cheminement, accès au gouvernement. Le jeune roi Louis XIII ne l'aime guère, le redoute. À la fin, il se résout à lui donner, avec 1000 réserves, entrée au conseil. 3 mois plus tard, Richelieu a pris tant d'autorité qu'il devient principal ministre. Il le restera, malgré des assauts multipliés jusqu'à sa mort. En ces 18 années d'une dictature toujours menacée, toujours triomphante, il rétablit la monarchie française. Armand Duplessis de Richelieu, bon gentilhomme du Poitou, élevé en soldat, est entré dans les ordres par intérêt de famille, encore que sa foi soit sûre et profonde. Il a voulu le pouvoir, moins par ambition vulgaire, que par une sorte d'impérieuse vocation parue en lui dès sa jeunesse. Quand il l'atteint, il a bien près de 40 ans. Philippe de Champaigne ressuscite pour nous dans l'élégance des soies cardinalistes, la face pâle et fine, le haut front encadré de cheveux gris, les yeux perçants, le long nez bossu, la bouche serrée sous la moustache cavalière, le menton qu'effile la barbiche, toute cette physionomie ensemble, altière et anxieuse, dont on imagine mal qu'elle a pu sourire et qui pourtant a souri, a su plaire avant de se figer. Hépatique et nerveux, il dort peu ou mal, toujours affligé de migraines, épuisé de saignées et de remèdes. D'humeur mélancolique, avec des saillies subites de violence, l'âme sèche, il méprise les hommes. Ses haines n'ont pas de pardon. Dans les pires orages, sa tête reste froide et claire. Il est souple, mais audacieux. Il goûte le risque à des côtés de joueurs. La grandeur, dit Charles Perrault, et la difficulté des entreprises l'encouragent. Il marche vers ses buts sans broncher sur des scrupules, avec une volonté qui parfois biaise mais ne fléchit pas. Sa passion est l'ordre. Se faisant de l'autorité royale une idée quasi divine, à cette idée, il déboue sa vie. La France, lasse des troubles, veut un maître. Il va le lui donner. Mais à cause des résistances mêmes qu'il éprouvera, il ira à l'extrême et remplacera une monarchie tempérée, parfaitement conforme à l'esprit national, par une monarchie absolue à façade majestueuse, mais trop stricte, trop rigide, trop oppressive, pour ne pas se fissurer tôt ou tard. Son programme. Quand il saisit le ministère, il embrasse l'étendue de sa tâche. Son programme est prêt. D'abord, assurer l'unité de l'État. Ruiner le parti huguenot parce qu'il s'entête à demeurer un parti, ne veut se fondre dans la nation. Puis rétablir la majesté royale, tellement ravalée qu'il est, écrit-il, presque impossible de la reconnaître. Pour cela, briser les grands, les mettre si bas qu'ils soient désormais incapables de se rebeller. Enfin, relever le nom du roi dans les nations étrangères au point où il doit être, c'est-à-dire reprendre la vraie politique française, lutte contre la maison d'Autriche et conquête des frontières naturelles. Il va se mettre aussitôt à l'ouvrage, après avoir, sur ses points principaux, consulté le roi et obtenu son agrément. Ce roi, dont il fera son collaborateur et dont, malgré bien des soubresauts, il gagnera et gardera la confiance par des flatteries fortes ou délicates, par un ingénieux étalage de soumission, est un prince timide, maussade, égoïste, dissimulé, jaloux, sans constance et qui baille son règne. Il n'aime pas les affaires, ne sait rien que la chasse et la guerre, où il se conduit bravement. Mais il connaît ses limites, à le respect de son métier de souverain. Avec cet instrument médiocre, Richelieu travaillera aux grands intérêts de la France, un œil fixé sur le cabinet royal, où une cabale, un mouvement d'humeur à tout moment, peuvent le perdre. Il n'a soutenu cette vie exténuante que par un prodige de volonté. Les protestants français reprennent les armes en 1627. Le cardinal s'est préparé à la lutte. Il arme en guerre tous les bâtiments de commerce qu'il peut rassembler dans nos provinces maritimes et, accompagné du roi, vient mettre le siège devant La Rochelle. La ville, très forte, bien munie, se défend héroïquement une année sous les ordres de son maître Guiton. La famine est telle que les 4/5 de la population périssent. Les rues sont encombrées de morts qu'on ne peut enterrer. Guiton enfin capitule. Richelieu n'abuse pas de sa victoire, il fait seulement raser les fortifications de La Rochelle. L'édit de Nantes est maintenu dans ses clauses générales, mais plus de place de sûreté, plus d'assemblée politique, plus de parti huguenot, plus d'État dans l'État. Les réformés rentrent dans le droit commun des Français. La lutte contre les grands. De même que les huguenots, les grands prennent l'initiative de la lutte. Elle va remplir toute la carrière de Richelieu. À la cour, Richelieu doit se défendre contre des ennemis puissants et nombreux. Les moindres ne sont pas les femmes, deux surtout. La jeune reine Anne d'Autriche, bornée, romanesque, demeurée étroitement espagnole et qui n'a pu vaincre l'offensante froideur du roi, son amie, la turbulente veuve de Luynes, remariée au duc de Chevreuse. Elles ont avec elles le parti dévot, rétif à la politique du cardinal contre l'Espagne, et le pape, le frère du roi, et son héritier présomptif, Gaston d'Orléans, aussi lâche que vaniteux. Au début, Richelieu est encore soutenu par la reine-mère. La première bataille se livre à propos du mariage de Gaston d'Orléans, à qui le ministre veut faire épouser la plus riche héritière du royaume, Mademoiselle de Montpensier. Un complot de palais se noue contre ce projet. On compte assassiner Richelieu. Sitôt averti, le cardinal frappe et rudement. Ornano, gouverneur de Gaston, est enfermé à Vincennes où il meurt. Chalais, âme de l'intrigue, décapité pour crime de lèse-majesté. Gaston d'Orléans, tremblant, cesse toute résistance et Richelieu se donne le plaisir d'officier lui-même à ses épousailles. Jusqu'alors, les ordonnances des rois pour abolir la coutume meurtrière des duels, 400 à 500 gentilshommes tués chaque année, étaient restées lettres mortes. Le cardinal, lui, entend être obéi. De jeunes gens, Montmorency Bouteville et Deschapelles, le brave en se battant plein midi, place royale. Arrêté en dépit des supplications de toute la cour, de l'hésitation du roi, ils sont jugés et exécutés. Marie de Médicis peu à peu lâche Richelieu et se joint à ses adversaires. Elle tourmente Louis XIII pour obtenir son renvoi. Au cours de la fameuse journée des dupes, elle croit avoir triomphé. Déjà la chute du ministre est annoncée aux provinces. Le garde des Sceaux Marillac doit le remplacer. Mais le roi de la nuit réfléchit. Il apprécie les services rendus par Richelieu, ce qu'il peut lui rendre encore. Il le fait mander à Versailles et le maintient au pouvoir. Les 4 pieds carrés du cabinet royal ainsi reconquis, Richelieu au conseil qui suit prend sa revanche. Marillac est mis à la Bastille. Quant à Marie de Médicis, elle reçoit l'ordre de se retirer à Moulins. Elle désobéit, passe la frontière, erre en Hollande, en Angleterre et partout importune, après 10 ans d'une vie misérable, ayant refusé tout accommodement, meurt chez l'électeur de Cologne, alors en guerre contre la France. En 1632, le duc de Montmorency, gouverneur du Languedoc, le premier baron de France, beau, brave, aimé de tous, s'abouche follement avec Gaston et soulève sa province. Écrasé à Castelnaudary, blessé et fait prisonnier, abandonné de Gaston, il est condamné à mort par le Parlement de Toulouse. Richelieu résiste aux plus instants de prière. L'état présent des affaires exige un grand exemple, déclare le cardinal. Et la tête de Montmorency tombe dans la cour du Capitole de Toulouse. Une dernière conspiration se trame en 1642 entre un jeune favori de Louis XIII, 5 mars, grand écuyer de France qui doit tout à Richelieu, le conseil d'État de tout et le duc de Bouillon. En pleine guerre contre l'Espagne, il traite avec elle. La trahison est éclatante, elle n'admet pas la pitié. Le cardinal n'en a pas. Prévenu par sa police, Richelieu, bien que très affaibli par la maladie et près de sa fin, fait arrêter 5 mars et de tout. Fort justement condamné à la peine capitale, ils ont tous deux la tête tranchée à Lyon, sur la place des Terreaux. Richelieu et l'Europe. Dans les premiers temps de son ministère, ne disposant que d'une trop faible armée, Richelieu a dû garder vis-à-vis de l'Europe une attitude expectante. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'encourager les luthériens allemands à la résistance contre l'empereur et de leur susciter un brillant défenseur dans la personne du roi de Suède, Gustave Adolphe. Mais celui-ci est tué à Lützen. Les princes allemands vont être écrasés. Richelieu voit qu'il ne peut plus reculer s'il veut sauver la liberté de l'Europe. S'alliant avec les Hollandais, la Savoie et les Suisses, il met sur pied 5 armées et déclare la guerre à l'Espagne. C'est de façon automatique la déclarer aussi à l'empereur. Il n'a pas pour seul but de juguler les Habsbourg, il veut aussi, comme il dit, mettre la France en tout lieu où fut l'ancienne Gaule. Une si vaste entreprise qui doit couronner sa tâche, Richelieu n'en verra pas l'achèvement. Il aura du moins, avant de mourir, la certitude du succès final. De 1637 à 1642, nos troupes font la conquête de l'Artois, de l'Alsace et du Roussillon. Louis XIII et Richelieu dirigent cette dernière opération qui s'achève par la prise de Perpignan. La flotte espagnole est battue par Sourdis. L'Europe entière est en feu. En Allemagne, Suédois et protestants occupent les armées impériales et nous soulagent par d'heureuses diversions. Notre plus redoutable ennemi, Ferdinand II, est mort. L'Espagne est affaiblie par l'insurrection du Portugal qui brillamment recouvre son indépendance perdue depuis 60 ans. Quand Richelieu et Louis XIII disparaissent, le vœu du cardinal, l'achèvement du précaré, est bien près d'être accompli. La fin de Richelieu. Malade, épuisé par un travail obstiné de jour et de nuit, le cardinal, pendant ces dernières années, n'est plus qu'un triste infirme qui ne se déplace qu'en litière. Mais sa vigueur intellectuelle ne faiblit pas. Son caractère n'est pas touché. Mourant, il soutient encore tout le poids du royaume. Si redouté, si haï, solitaire comme tous les hauts esprits, il n'a pour le consoler à sa fin que l'assurance d'avoir accompli sa mission. Lorsqu'il reçoit le viatique, il dit avec confiance « Voilà mon juge, je le prie de me condamner si dans mon ministère, je ne me suis jamais proposé autre chose que le bien de la religion et celui de l'État. » Ce mot suprême dit tout. Il éclaire et ennoblit sa vie. Richelieu a certes commis des fautes, dont la principale à nos yeux est d'avoir trop resserré la France dans la main royale, d'avoir été, avec une ardeur trop jalouse, le fourrier du droit divin. Mais il a reforgé la nation et lui a déblayé la première place en Europe. Il a rendu inévitable l'épanouissement prochain de son hégémonie spirituelle. Les fruits de son règne vont mûrir peu à peu. Longtemps jugé sans équité, il reprend aujourd'hui, à la lumière des événements postérieurs, son rang légitime, celui du plus grand politique qui a encore paru en France et qui ne sera rejoint que par Napoléon.